Chapitre 12. Le vainqueur de Mithridate a 39 ans, quoique ses amis, lisez ses flatteurs, ne lui en donnent que 34, l'âge d'Alexandre. Il est arrivé au point culminant de sa fortune. Il ne fera plus que descendre, tandis que César ne fera plus que monter. Si Pompée a 39 ans, et plus tard que dit positivement son âge, César en a 33. Le peuple romain, dit Plutarque, semble avoir été, dès le commencement, envers Pompée, dans la même disposition où est le Prométhée d'Eschyle envers Hercule, quand il dit à celui-ci qui vient de le délier « Autant j'aime le fils, autant je hais le père ». Pourquoi le peuple romain haïssait-il le père de Pompée, Strabo ? Plutarque nous le dit en une ligne. Parce qu'il ne pouvait lui pardonner son avarice. Ce qui voulait dire que le père de Pompée ne donnait pas de jeu aux Romains, ne leur offrait point de dîner public, ne leur donnait pas de billets de spectacle, crime impardonnable aux yeux de tous ces rois du monde qui passaient leur temps couchés sous les portiques, causant politique dans les bains ou buvant du vin cuit dans les cabarets. La haine était grande, en effet, puisque Strabo ayant été frappé de la foudre, le peuple arracha son corps du bûcher où il était déjà déposé et lui fit 1000 outrages. Mais, nous le répétons, le fils, en échange, était adoré. Voyez ce qu'en dit encore Plutarque dans sa belle langue grecque. Aucun autre n'obtint une bienveillance plus forte, qui commença plus vite, qui fleurit mieux pendant le bonheur, qui resta plus fidèle dans l'adversité. Peut-être aussi ce qui avait, dans Pompée, séduit les Romains, peuple éminemment sensuel, c'était sa beauté. Pompée avait les traits doux, parfaitement en harmonie avec une parole mélodieuse, un air grave, tempéré par une grande expression de bonté, des manières nobles, une grande tempérance dans sa vie habituelle, une suprême adresse à tous les exercices du corps, une éloquence presque irrésistible, une immense facilité à donner, et en donnant une grâce presque divine qui avait l'art de ménager l'amour-propre de celui qui recevait. Ses cheveux, qu'il portait un peu relevés, et son regard plein de charme, lui donnaient avec Alexandre, ou plutôt avec les statues qui restaient du conquérant de l'Inde, une ressemblance qui flattait beaucoup le jeune homme, et qui était si publique et si reconnue, qu'un jour le consul Philippe, plaidant pour lui, dit en souriant « Que l'on ne s'étonne point de ma partialité envers mon client. Il est tout simple qu'étant Philippe, j'aime Alexandre. » Nous avons parlé de sa tempérance. Citons-en un exemple. Au sortir d'une maladie assez grave, on lui avait commandé la diète, et comme il recommençait à manger, le médecin lui permit seulement une grive. Malheureusement, les grives sont des oiseaux de passage, et l'on n'était plus dans la saison du passage des grives. De sorte que les serviteurs de Pompée coururent tous les marchés de Rome sans pouvoir en trouver une seule. « Te voilà bien embarrassé, lui dit un de ses amis. Tu en trouveras chez Lucullus qui en fait nourrir toute l'année. »« Non, ma foi, répondit Pompée, je ne veux demander aucun service à cet homme. » « Cependant, insista l'ami, si le médecin a recommandé absolument que tu manges une grive et pas autre chose. » « Allons donc, répondit Pompée, veux-tu donc que je croie qu'il était écrit dans les arrêts du destin que Pompée n'aurait pas vécu si Lucullus n'eût été assez gourmand pour conserver des grives en volière ?» Et Pompée envoya promener le médecin. Nous avons parlé de son éloquence. Prouvons. Après la mort de Strabo, il eut à repousser une accusation de pécula produite contre son père et dans laquelle on essayait de l'entraîner. Mais il mit dans sa défense une telle adresse et une telle fermeté que le préteur Antistius, qui présidait au jugement, résolut dès lors de lui donner sa fille en mariage et la lui fit offrir par des amis communs. Pompée accepta. Ses futures fiançailles étaient déjà tellement connues du peuple et se trouvaient tellement de son goût qu'au moment où Pompée fut absous, la multitude, comme si elle eût obéi à un mot d'ordre, cria « Attalassius, Attalassius !» Que signifiaient ces deux mots que les Romains avaient l'habitude de proférer quand ils souhaitaient des noces heureuses? Nous allons le dire. C'était une vieille tradition romaine et qui remontait à l'enlèvement des Sabines. lorsque lieu ce grand événement qui mit l'empire naissant de Romulus à deux doigts de sa perte, des peintres et des bouviers enlevaient une jeune Sabine d'une beauté si parfaite qu'ils craignaient qu'il ne leur fallût combattre à chaque pas pour la conserver. Alors il leur vint cette idée de la mettre sous la protection d'un des noms les plus estimés de la jeune Rome. De sorte que, tout en courant, ils criaient « Attalassius, Attalassius !» comme si c'était pour le compte de Thalassius qu'ils enlevaient la jeune Sabine. Grâce à ce nom, ils purent la conduire en sûreté où ils voulaient. Et, en effet, la jeune Sabine épousa Thalassius, et le mariage ayant été très heureux, cette coutume se conservait à Rome de crier lors des mariages de quelque importance et en manière de souhait de bonheur « Attalassius, Attalassius !» Pompée épousa, en effet, Antistia. Mais il n'eut pas en mariage autant de bonheur que Thalassius, car il fut, par Sylla, ainsi que nous l'avons dit, forcé de répudier Antistia pour épouser Émilie, fille de Métella et de Scorus, et belle-fille de Sylla. L'ordre était d'autant plus tyrannique qu'Émilie était mariée et enceinte. Et il y avait d'autant plus de honte à Pompée de céder à cet ordre que son beau-père Antistius venait d'être assassiné dans le Sénat sous prétexte que, Pompée étant du parti de Sylla, il devait en être lui aussi qui était le beau-père de Pompée. Au reste, la mère d'Antistia ne put, voyant sa fille répudiée, supporter l'affront que Pompée venait de lui faire, elle se tua. Enfin, cette mort fut suivie de celle d'Émilie qui mourut en couche. Il est vrai que cette terrible tragédie de famille, qui eût fait grand bruit à une autre époque, se perdit au milieu de la tragédie publique qui s'accomplissait à cette heure et dans laquelle Marius et Sylla jouaient les principaux rôles. Nous avons dit qu'en circonstances pareilles, César aima mieux affronter la colère de Sylla que de lui obéir. Le génie des deux hommes est tout entier dans cette différence. C'est que, dans des circonstances analogues, l'un cède, l'autre résiste. Qu'on nous pardonne de revenir ainsi sur Pompée, dont nous avons déjà parlé avec quelques détails. Mais l'homme qui disputa le monde à César vaut bien la peine que l'on s'occupe un peu longuement de lui. Ensuite, nous avouons que nous serions fiers de faire pour l'Antiquité ce que nous avons fait pour les temps modernes, pour l'histoire grecque et les Romains, ce que nous avons fait pour l'histoire d'Angleterre, d'Italie et de France, c'est-à-dire de la mettre à la portée de tout le monde. Que faudrait-il pour cela? La rendre amusante. Quand on nous montre les Grecs et les Romains, on nous montre trop des statues et pas assez des hommes. Hommes nous-mêmes, nous nous intéressons surtout à des êtres appartenant bien visiblement à l'humanité. Or, en écartant la tunique d'Alcibiade et la toge de César, que verrons-nous? Des hommes. Mais il faut écarter la tunique et la toge. Il faut, enfin, faire ce que nous tentons, montrer en robe de chambre ces héros et ces demi-dieux de collège. Vous rappelez-vous le temps où l'on nous disait que l'histoire n'était si lourde à apprendre que parce qu'elle était ennuyeuse? Ennuyeuse sans doute dans le Père Daniel, dans Mézeray, dans Anquetil, mais amusante dans les chroniques, dans les mémoires, dans les légendes. D'où est venu le grand succès de M. de Barante dans ses Ducs de Bourgogne? C'est qu'un des premiers, il a substitué la forme de la chronique à la forme de l'histoire ou de ce qu'on appelait l'histoire. Est-ce que nous n'en avons pas plus appris à nos lecteurs avec les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et le Vicomte de Bragelonne, sur l'époque de Louis XIII et de Louis XIV, que Levasseur avec ses 20 ou 25 volumes? Qui connaît Levasseur? Guillemot et Techner, parce qu'ils vendent ces 25 volumes 25 francs, non pas au public, mais à tous ceux qui, comme moi, sont forcés de les acheter.